Oui, comme le débat est très riche, on ne peut pas réagir sur tout, donc je dis des points de résonance. Sur ce que vous dites à l'instant, je crois que c'est intéressant aussi, ça fait partie aussi des formes de résistance créatrice, le droit de revisiter, de se réapproprier des sens des mots qui ont été totalement détournés. Par exemple, la richesse, c'est ce qui compte dans nos vies. Donc réduire la richesse à son expression monétaire, c'est évidemment hautement discutable. Le mot valeur, qui a été à ce point déformé qu'on en arrive à dire que le but d'une entreprise, c'est la création de valeur pour les actionnaires, dans toutes les langues latines, valor, ça veut dire la force de vie. Quand on parle de valeur ajoutée, on devrait parler d'une force de vie supplémentaire. On comprend bien à ce moment-là que le contraire de la valeur, c'est la destruction de la force de vie. Par exemple, soit la destruction de la force de vie du côté écologique ou la force de vie du côté humain. Quand une entreprise comme France Télécom a un tel degré de souffrance au travail que ça produit des taux de suicide dramatiques, eh bien, on peut dire que c'est de la destruction de valeur. Donc, la façon même dont on conteste la réduction des mots par le vocabulaire économique dominant est, je crois, essentielle. Sur ce que vous disiez à propos des villes en transition, je crois que c'est effectivement une piste très, très importante et qui illustre bien ce que j'évoquais à propos du trépied du rêve, parce que la ville en transition, elle part d'une situation de résistance contre des éléments inacceptables, par exemple le déni de la raréfaction de la ressource pétrolière et les conditions invraisemblables dans lesquelles on la gaspille dans des sociétés hyperproductivistes. Elle a la vision transformatrice, et c'est une des particularités que je trouve très intéressante du mouvement des villes en transition, c'est justement qu'elle cherche à projeter un futur souhaitable, un futur désirable, et pas être simplement dans les logiques noires, parce que sinon ça génère aussi des sentiments de peur et d'impuissance. Et quand, par exemple, au niveau d'une ville, vous dites, ben, on va imaginer notre ville dans 20 ans ou dans 30 ans, mais on va l'imaginer avec beaucoup moins de pétrole, avec beaucoup moins d'énergie fossile, avec beaucoup plus de qualité de vie, avec beaucoup plus de services publics, etc., etc. À ce moment-là, on a la partie vision transformatrice positive. Et puis, sans attendre, et là on retrouve l'expérimentation anticipatrice, qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant pour faire avancer notre ville en transition dans cette direction? Et je crois que c'est très important parce que on dit souvent l'arme la plus puissante de l'oppresseur est dans la tête de l'opprimé. C'est une autre façon de dire ce que disait la poésie sur le problème de la servitude volontaire. In fine, l'arme la plus puissante, c'est quand les victimes restent isolées et persuadées au fond que ça ne peut pas être autrement. Donc la façon dont on développe notre propre imaginaire et la façon dont on s'assemble collectivement pour sortir des logiques de fatalité est essentiel. De ce point de vue-là, il y a une leçon très intéressante que les sociologues comme Poisson-Charlot, qui ont étudié les catégories des riches, redisent très fortement dans leur bouquin, ils ont raison, c'est très souvent, les riches sont beaucoup plus coopératifs entre eux que les catégories les plus modestes ou qui en sont victimes. Hein, précisément parce qu'ils sont peu nombreux, ils sont extrêmement coopératifs entre eux, ils sont extrêmement imaginatifs et ils ont une capacité de réactivité et de souplesse qui est extrêmement grande. Et très souvent, quand on regarde du côté des forces sociales qui sont plutôt du côté des victimes, eh bien, bien, cette qualité de coopération, cette qualité d'imagination et cette qualité de réactivité, elle manque. Regardez ce formidable mouvement social sur les retraites, hein, la formidable énergie sociale qui a été dépensée sur un mouvement de retraite, mais la faiblesse de l'imagination dans l'action, qui fait que, au total, cet immense mouvement, il débouche sur un échec, ou en tout cas sur un semi-échec. Ça montre aussi qu'il y a à revisiter la façon dont on conçoit les formes d'action. Il y avait aux États-Unis un mouvement que je trouve très intéressant qui s'appelait le jiu-jitsu de masse. Le jiu-jitsu de masse, c'est l'art d'utiliser la force de l'adversaire pour la retourner. C'est l'application des techniques des arts martiaux à de la conflictualité sociale. Dans les approches de type jiu-jitsu de masse, par exemple, la qualité de coopération et la qualité de plaisir partagé des acteurs qui mènent la coopération, elles jouent un rôle déterminant. Quand on est dans du militantisme sacrificiel, ce qui est souvent le cas dans nos formes de lutte, bah évidemment, il n'y a pas une énergie créatrice qui est suffisante pour faire bouger les choses. Je vous donne un exemple, vous pouvez le relire dans les Rules for Radicals, qui avait été malheureusement traduit en français avec un titre de patronage qui a été traduit Manuel de l'animateur social. Évidemment, ça ne risque pas d'être subversif, mais un des exemples célèbres, c'est dans les règles de cette action citoyenne, la première règle, c'est le ciblage. Parce que vous pouvez dénoncer. Mais si vous restez dans la dénonciation globale, ça reste abstrait. Donc eux, par exemple, ils luttaient contre la discrimination raciale et les formes d'exclusion, de pauvreté. Bon, ben, ils prenaient un exemple précis. Bon, par exemple, ils avaient choisi un aéroport du sud des États-Unis qui pratiquait la discrimination raciale. Ça, c'est la règle du ciblage. Deuxième règle, l'enquête citoyenne sur place pour repérer les points faibles du partenaire adversaire. Alors, ils allaient, par exemple, ils vont à l'aéroport, mais c'est en même temps un mouvement non violent, donc ils s'interdisent, on sait bien que dans les aéroports, il y a des tas de faiblesses liées à la sécurité, ils s'interdisent cette zone-là. Donc, ils arrivent à la conclusion, et comme la troisième règle, c'est on prend du plaisir dans la façon dont on rassemble les éléments de l'enquête et dont on imagine la suite de l'action. Donc, ils se retrouvent pour une grande bouffe sympa, ils rassemblent tous les éléments de point de faiblesse et ils arrivent à la conclusion que le point faible d'un aéroport, c'est les toilettes. Parce que il n'y a pas d'alternative aux toilettes de l'aéroport, parce que une personne sur deux qui descend d'un avion se précipite aux toilettes, parce que les enfants, etc., etc. Ils arrivent à la conclusion que s'ils bloquent les toilettes, leur truc tient pas parade. Donc ils élaborent ce qu'ils appellent le shit-in. Et comme ils intègrent beaucoup la fonction du rire dans leur action, dans les parades qu'ils imaginent du côté de la direction, ils arrivent à la conclusion que leur truc est effectivement bien au point, parce qu'on peut difficilement imaginer les vigiles de l'aéroport enfin, dire « toc, 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 ça fait une heure que vous êtes enfermé dans ces toilettes » ou « monsieur, c'est la troisième fois qu'on vous voit uriner ». Bon. Alors une fois qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils tiennent un vrai truc, une autre règle que j'adore, c'est la menace est supérieure à l'action. C'est-à-dire que quand on a des catégories de riches et de puissants, qui par nature sont peu nombreux, ils sont naturellement paranoïaques. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup pour qu'ils se croient menacés. Donc là, par exemple, dans l'exemple que je donne, ils envoient un faux espion raconter à la direction de l'aéroport ce qu'ils sont en train de préparer avec leur opération shit-in. Et c'est la direction de l'aéroport qui se réunit en cellule de crise pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Et comme leur truc a été bien pensé, ils arrivent à la conclusion que oui, et là, autre élément absolument fondamental, c'est qu'ils créent toujours une capacité de négociation possible. Ça, c'est une grande différence par rapport au gauchisme européen. C'est la même radicalité imaginative, mais il y a une règle que je trouve extrêmement forte qui est ne court jamais le ridicule d'être désemparé si jamais ton adversaire accepte de négocier. Regardez le nombre de mouvements sociaux tétanisés à l'idée de la peur de la récupération, par exemple. Or là, non, ils acceptent le terrain, moyennant quoi ils gagnent une victoire qui est certes une victoire partielle, mais qui donne de l'énergie et qui permet de démultiplier d'autres actions derrière. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, j'avais fait connaître ces ouvrages aux copains brésiliens qui sont hyper imaginatifs aussi dans la façon de mener les luttes. Ben, je vous garantis qu'une lutte telle que le mouvement des retraites, appliquée avec ces techniques-là, ça donnait autre chose que les défilés majestueux, mais à peu près impuissants.